Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Chindali Kabala. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici d'abord l'ossature. Les léopards de la République démocratique du Congo ont foulé les sols de leurs ancêtres lundi 17 novembre triomphant après leur victoire face aux Super Eagles du Nigeria lors des barrages africains. Point de chute, le stade des martyrs où les attendaient les couples présidentiels et une foule nombreuse en liesse acquise à leur cause. Baisse de prix des carburants observée depuis ce lundi matin à Kinshasa. Ceci fait suite à une décision du gouvernement annoncée vendredi dernier. Mais sur le terrain, cette mesure n'est pas encore en application dans plusieurs stations-service de la capitale. Au Kasaï oriental, la ville de Mbujimayi dispose de plusieurs sites à potentiel touristique, mais ceux-ci restent pour l'instant peu ou pas aménagés. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Francis Mouya, chef de bureau de l'Agence provinciale de l'Office national du tourisme. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à cette grande édition du journal. Les léopards de la République démocratique du Congo ont regagné lundi 17 novembre le sol de Kinshasa triomphant après leur victoire face aux Super Eagles du Nigeria lors des barrages africains. À bord de leur bus officiel, ils ont transformé leur retour en un véritable carnaval à travers les rues de la capitale jusqu'au stade des martyrs où les attendait un public en liesse et les officiels congolais avec à leur tête le couple présidentiel. Des Congolais massés le long de l'itinéraire mais aussi installés au stade des martyrs ont tenu à féliciter les fauves congolais pour cet exploit. Blaise Makasi Nandes résume dans ce reportage la journée de l'équipe nationale.
C'est dans un stade de martyrs acquis à leur cause que les léopards tombeurs des Super Eagles du Nigeria et des lions indomptables du Cameroun ont été accueillis par le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État, prenant dans ses bras chacun des joueurs et membres du staff technique, leur a transmis les félicitations de la nation et rappelé combien ils ont rendu fiers les Congolais. Le président Tshisekedi a invité les Congolais à faire bloc derrière l'équipe nationale, appelé à disputer les barrages intercontinentaux, ultime étape avant une qualification définitive pour le mondial. Dans une brève cérémonie, le chef de l'État a remis le drapeau national au capitaine Chancel Mbimba en signe de confiance et de soutien total de la nation. Ce geste solennel s'accompagne d'une mission claire, qualifier la RDC pour la Coupe du Monde 2026. Le public, lui, nourrit une attente immense. Voir enfin la RDC participer à une Coupe du Monde, une compétition que la nation n'a plus disputée depuis 1974. La RDC, candidate du continent africain, tentera de valider son billet lors du tournoi intercontinental prévu en mars prochain au Mexique. Ces barrages détermineront les derniers qualifiés pour le mondial 2026.
Baisse de prix de carburant observée depuis ce lundi matin à Kinshasa. Ceci fait suite à une décision du gouvernement annoncée vendredi dernier. Le prix du litre d'essence est passé de 2690 à 2440 francs congolais et de 2680 à 2430 francs congolais pour le gasoil. Sur terrain, ce lundi, certaines stations-service appliquent déjà le nouveau tarif, mais nombreuses gardent encore l'ancien prix. On écoute ce reportage de Rachel Kalombe, rendu par Enoch Katumbi.
Cette baisse du prix des carburants n'est pas appliquée ce lundi dans plusieurs stations-service de la ville. Celles situées sur les trajets allant de Limété au rond-point Victoire ont vendu ce lundi à l'ancien tarif. Certains responsables de ces sites disent vouloir évacuer leur ancien stock pour ne pas connaître des pertes. Pour éviter de perdre justement, certaines autres stations ont arrêté de vendre en attendant l'application du nouveau tarif. Ce qui complique la vie des nombreux conducteurs d'engins motorisés. C'est le cas de ces chauffeurs.
Actuellement, les stations ne vendent pas. C'est le gouvernement qui est à la base de la dépréciation du dollar ainsi que la baisse du prix des carburants. Maintenant, nous ne savons quoi faire.
De son côté, Degrasse Nkoso, une cliente, se plaint de cette rareté qui tombe pile au moment où les prix baissent. Elle demande au gouvernement de faire le suivi suivis pour que cette mesure soit respectée sur terrain.
Il n'y a pas de carburant. En même temps, le prix n'a pas baissé. On dit que le prix a baissé, mais quand tu arrives à la station, ce n'est pas du tout comme ça. Déjà, il n'y a pas de carburant et le prix n'a pas baissé. On ne sait pas quoi faire.
Beaucoup d'Équinois et Quinois espèrent une amélioration rapide de la desserte en carburant par les stations pour que la circulation revienne à la normale.
On reste sur l'économie, mais cette fois dans le Kasaï oriental. Dans cette province, les secteurs de l'hôtellerie se développent de plus en plus. Sur le plan économique, ces hôtels ont résorbé les chômages tant décriés. Ils ont en même temps poussé les agriculteurs à exploiter les maraîchages afin d'alimenter les hôtels. Des explications avec Esther Ndalafina.
Plusieurs hôtels sont construits le long des grandes artères et dans le quartier populaire de la ville de Mbujimayi. Selon certains habitants, l'hôtellerie emploie une large gamme de profils. Réceptionnistes, femmes de chambre, cuisiniers, agents de sécurité, gestionnaires, etc. Ce secteur offre souvent des opportunités, même aux personnes sans qualification. En Mbujimayi, le secteur de l'hôtellerie joue un rôle crucial dans le développement socio-économique en favorisant la croissance locale et la création d'emplois. Ceux qui y travaillent ne sont pas déçus. Témoignage de Valérie Kadima.
Nos familles vivent très bien à partir de l'argent que nous recevons ici à l'hôtel comme rémunération. On dit qu'il n'y a pas de son métier. L'essentiel, c'est d'avoir un travail. Le travail assure l'indépendance.
Sur le plan économique et social, les hôtels favorisent aussi le travail des femmes en achetant leurs produits des champs. Les poivrons, les tomates, autrefois importés, sont désormais cultivés en Mbujimayi.
Nous venons vendre ici les pommes de terre, les choux, les poivrons, les piments, les tomates. Les oignons, ce sont les hôtels qui achètent en grande quantité. Nous avons maintenant les champs de ces cultures ici en Mbujimayi. On nous fait des commandes à l'hôtel et on paye cash.
Signalons qu'à part les produits maraîchers, plusieurs hôtels de Mbujimayi s'approvisionnent localement en produits de pêche. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Santé à présent, au Nord Kivu. Le médecin chef des zones de santé de Masisi alerte sur la résurgence du choléra dans sa juridiction. Il s'agit selon lui des aires de santé de Masisi, Kitchoulé, Mutiri, Sati, Mianja et leurs environs qui se situent à environ 87 km de Goma dans les territoires de Masisi. Il précise que c'est depuis le début du mois d'octobre dernier qu'on a commencé à notifier des cas de diarrhée cholériforme dans cette zone qui compte 26 aires de santé. Même s'il n'y a pas de décès rapporté dans les centres de traitement, au moins 3 cas de décès communautaires sont déjà enregistrés dans les aires de santé des Mianja et des Masisi centres. Ici, le médecin chef des zones de santé des Masisi, Dr Lucien Kandundao, revient sur la situation et appelle la population à respecter les mesures d'hygiène afin de prévenir cette maladie mortelle. Il est au micro de Bernardine Diambo.
C'est depuis la semaine épidémiologique 40 que nous avons commencé à notifier des cas de diarrhée cholériforme dans la zone. Les cas index avaient commencé dans l'aire de santé de Mianja. Jusque-là, nous sommes aux 40 cas. La situation continue à s'aggraver au niveau de l'aire de santé de Masisi. La situation commence à embrasser même les aires de santé avoisinantes car nous avons enregistré des cas provenant de Kitsule, de Sati, à côté de l'aire de santé de Masisi. Nous demandons toujours à la population d'être trop vigilant devant tout cas de diarrhée cholériforme, de se diriger vers les centres de santé les plus proches ou de trouver le site et le point SRO que nous avons installé un peu partout pour prendre SRO à côté. Nous les prions à ne boire que de l'eau potable, de bien cuire les aliments et de se laver à tout moment avant l'utilisation des aliments. Laver les fruits, laver les légumes, tout ça. Le lavage des mains doit être systématique, mais surtout aussi de garder un environnement sain et propre.
Signalons que la zone de santé de Masisi a une faible couverture en eau potable, surtout dans les aires de santé les plus éloignées. Les défis sécuritaires et humanitaires qui empêchent les gens d'avoir une bonne hygiène seraient également à la base de cette maladie. Restons toujours sur le chapitre sanitaire, mais cette fois-ci dans la province de la Tchopo. La zone de santé de Basoko, située à 285 km de Kisangani, en aval du fleuve Congo, connaît également une résurgence inquiétante du choléra. Depuis le début de l'épidémie en juin dernier, un total cumulé de 459 cas, dont 21 décès, ont été enregistrés, rapporte le bureau central de cette entité sanitaire. Cette situation met en lumière les limites du système de santé locale. Les points avec Jacques Moukongole.
Les sources médicales locales évoquent un accès très limité aux soins appropriés, principalement dû au manque de moyens logistiques et sanitaires adaptés. Les conditions d'hygiène précaires, notamment la consommation d'eau impropre et la manipulation des aliments dans des conditions non hygiéniques, seraient à l'origine de cette flambée épidémique. Le superviseur du bureau chargé d'eau, hygiène et assainissement de la zone de santé de Bassoko, Robert Essabé, appelle à une intervention urgente du gouvernement et des partenaires pour lutter contre cette épidémie.
Vu le nombre de cas, nous sommes presque à l'alerte par rapport au stock de médicaments qui se trouve au niveau du bureau central ainsi qu'au niveau des aires de santé. C'est la raison pour laquelle nous plaidons aux gens de bonne volonté de venir à l'aide dans la zone de santé de Bassoko.
Pour le moment, la division provinciale de la santé ne s'est pas encore prononcée. En attendant, le superviseur du bureau d'hygiène, eau et assainissement de Bassoko conseille aux communautés locales d'adopter rigoureusement les gestes barrières. En l'occurrence, le traitement de l'eau, le lavage régulier des mains au savon, ainsi que la préparation des repas dans des conditions hygiéniques strictes. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans un autre registre, le trafic routier est resté paralysé ce lundi sur l'axe routier Bukavu-Mitiombo, conséquence des attaques menées dans la matinée par les rebelles du M23 contre les positions de Wazalendo dans les territoires de Kabare au sud Kivu. Ronelyne Tibonera pour les détails.
Selon des sources militaires dans la zone, cette fois-ci, les rebelles ont ciblé la position de Wazalendo, connue sous le nom de Météo, située dans le parc national de Kahuzi-Biega. Ces affrontements, impliquant des armées lourdes et légères, ont perturbé toutes les activités champêtres économiques dans la région. Les mototaximens en provenance ou en partance pour Kalonge et Bunyakiri ont été contraints de rebrousser chemin, craignant pour leur sécurité. Des notables locaux évoquent une volonté manifeste du M23 de forcer un passage vers des entités comme Kalonge et Bunyakiri, actuellement contrôlé par les Wazalendo. Des sources proches de la rébellion justifient ce manœuvre militaire comme une réponse aux opérations menées par les FRDC et leurs alliés. Des accusations balayées d'un revers de la main par les forces loyalistes. Lundi dernier, le porte-parole de FRDC, le major général Sylvain Akenge, avait mis en garde le M23 et ses alliés contre toute attaque visant les positions de FRDC. Moins d'une semaine après ces déclarations, les rebelles du M23 se sont emparés des villages Maïmingi 1 et 2 dans le territoire de Shabunda.
Pendant ce temps, en Ituri, les activités ont repris normalement ce lundi à Babougbe, dans les territoires de Mambasa, au sud-ouest de Bounia. Cela fait suite à 2 jours de psychose provoquée par un mouvement de colère de certains militaires ougandais. Samedi, ces soldats avaient tiré plusieurs coups de feu en l'air pour réclamer plusieurs mois de soldes impayés. Selon des sources sécuritaires, ces détonations ont semé la panique au sein de la population qui a cru à une attaque des ADF. Les activités socio-économiques ont ainsi été perturbés pendant 2 jours sur l'axe Mambasa-Lolwa à environ 40 km de Bounia. Pour rappel, l'armée ougandaise est engagée dans des opérations conjointes contre les rebelles ADF actifs dans cette région. Ce journal se poursuit à Kinshasa. Durant ses premiers 100 jours, le ministre d'État en charge des relations avec les parlements se réjouit d'avoir posé les jalons d'une collaboration fructueuse entre les gouvernements et les institutions parlementaires du pays. Guy Luando a exprimé sa satisfaction lors d'un échange ce lundi avec des journalistes à Kinshasa. Il a notamment évoqué l'installation d'une académie parlementaire destinée à remettre à niveau non seulement les élus, mais également les membres de toutes les institutions publiques. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
À travers ces différentes réformes, le ministre des Relations avec les Parlements affirme vouloir assurer la stabilité institutionnelle, la transparence de l'action publique et l'efficacité de la gouvernance à travers les pays. Guy Luando indique avoir la responsabilité de faire fonctionner les institutions de manière harmonieuse en garantissant un dialogue permanent et transparent entre gouvernement et parlement. Ces membres du gouvernement souminois se présentent comme un pont stratégique entre exécutif et législatif permettant d'anticiper les défis, de fluidifier l'examen des projets de loi et de renforcer la cohésion institutionnelle au service de la population. Parmi ces réformes, il cite notamment la mise en place de l'académie parlementaire et la saison d'évaluation du gouvernement. Dans le cadre du programme du gouvernement 2024-2028, Guy Luando dit assurer le suivi des projets législatifs tels que les projets de loi sur les barrages Inga en collaboration avec les ministères des ressources hydrauliques. Reste que toutes ces réformes visent à apporter du concret non seulement dans les paniers de la ménagère, mais mais également dans le vécu quotidien des Congolais.
Province du Haut-Katanga, avant d'aller plus loin, une journée scientifique sur les retombées du secteur minier a été organisée ce samedi dans les territoires de Kambov par l'association L'élite de Kambov. Thème retenu, Kambov et ses mines, quelles retombées? Il a été question de réfléchir sur l'apport des entreprises minières aux communautés locales. Le point avec Paulin Monanga.
Parmi les thèmes abordés au cours de cette journée scientifique, il y a la cartographie minière de Kambov et l'aperçu général du secteur minier. Il y a aussi la responsabilité sociétale, la redevance minière, la dotation de 0,3%, les cahiers des charges, le respect des engagements et la transparence. L'objectif de cette activité est d'établir sur l'apport des entreprises minières dans les territoires de Kambov en réfléchissant sur comment améliorer la gouvernance minière et renforcer les impacts positif au bénéfice des communautés. Les intervenants ont mis en exergue l'importance d'un équilibre entre exploitation minière, développement économique et bien-être des populations. Les représentants des entreprises minières ont présenté leurs ouvrages déjà réalisés au bénéfice des communautés locales. Ils ont mis en avant leur contribution en infrastructure, en appui social et environnemental. Signalons parmi les entreprises minières œuvrant dans les territoires de Kambov, il y a Mika, Sekikipoy, Komika, Kambov Mining, Komilu, New Minerals, Lubumbashi, Polemunanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Guinée-Bissau, la présidentielle et les législatives, c'est dimanche 23 novembre. Et le président Oumaru Sissoko Embalo se présente pour un second mandat en se faisant surnommer général do povo, en français, général du peuple. Il croit d'autant plus en ses chances que la justice a écarté du scrutin la candidature de son principal adversaire, Domingos Pereira, le leader du parti historique PGC.
L'invité.
Au Kasaï oriental, la ville de Mbujimayi dispose de plusieurs sites à potentiel touristique, mais ceux-ci restent pour l'instant peu ou pas aménagés. Parmi ces espaces figurent notamment plusieurs hôtels construits par des opérateurs économiques privés qui tentent de valoriser l'image de la ville et d'accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. Francis Mouya, chef de bureau à l'Agence provinciale de l'Office national du tourisme, est l'invité de la rédaction. Il répond aux questions d'Esther Ndalafina.
Bonjour, Monsieur Francis Mouya.
Bonjour, Madame.
Votre service a-t-il déjà identifié certains sites touristiques qui se trouvent sur la ville de Mbujimayi?
Oui, effectivement, nous avons eu à identifier certains sites qui se trouvent sur la ville de Mbujimayi. Notamment, nous avons le monument de Bonzola. Nous avons un nouveau musée qui vient de naître, musée national juste sur l'avenue Kalonji. Nous avons le monument de Tchombe. Nous avons le musée qui se trouve même dans la cathédrale de Bonzola et l'église même catholique qui se trouve à l'intérieur, il y a un musée. Et aussi, nous avons le polygone minier de la Miba. Donc, si quelqu'un veut aller visiter, il passe par notre service. Nous faisons une lettre de demande à qui de droit. Comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas assez. Mais du moins, à part les sites dont j'ai eu à énumérer, il y a aussi des hôtels aussi qui sont d'ailleurs des sites touristiques. Parce que lorsque un touriste ou un étranger qui vient d'ailleurs a besoin d'aller où loger. En allant visiter certains hôtels, il peut prendre des selfies comme les gens ont l'habitude de prendre des selfies, garder des images.
Est-ce que ces sites sont visités?
Effectivement, ces sites sont visités. Dernièrement, lors de tourisme scolaire, nous avons eu à visiter avec les élèves de l'école EDAP le musée de la cathédrale Bonzola. Il y avait un guide qui était là sur place. Il expliquait les différentes choses qu'il y avait à l'intérieur. Et après là, on a eu à aller en excursion, visiter le site photovoltaïque. Nous sommes allés jusqu'au site de lac Lomba. Ces sites sont visités. Et s'il y a quelqu'un qui aimerait aussi visiter les différents sites, connaître la ville de Mbujimayi, les portes sont ouvertes à l'Office national du tourisme pour accompagner la personne.
Comment faites-vous donc la promotion du tourisme au Kasaï oriental?
Nous le faisons en collaboration avec nos partenaires hôtelières qui sont les opérateurs du secteur, les hôteliers. En parlant d'abord des hôtels, on leur montre les hôtels. Lorsqu'il y a un étranger, un touriste qui arrive sur place, nous lui parlons des différents hôtels que nous avons. Je peux citer, nous avons l'hôtel Métropole, Gloria, Gertrude Hôtel, et nous avons leurs flyers. On leur montre les photos. La personne peut apprécier au travers les photos, les vidéos, les images que nous avons dans les réseaux sociaux. On fait la promotion des hôtels et il y a aussi des restaurants. On leur montre aussi les images des différents sites touristiques que nous avons, notamment Source Le Loukélengue, Lomba et autres sites. Si la personne apprécie et aimerait aussi aller visiter, nous avons la possibilité aussi de l'accompagner pour visiter et se mettre en contact avec la nature.
Est-ce que le secteur touristique rapporte de l'argent à la province du Kassai-Oriental?
Dans les années qui viennent, on pourra voir dans la mesure du possible comment faire pour développer. Ça fait partie des projets de développement de la province. Actuellement, là, elle ne rapporte pas dans l'économie de la province. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sites touristiques qui ne sont pas aménagés. Mais du moins, dans nos projets, nous avons mis en place des projets à la recherche des partenaires qui peuvent aménager les différents sites touristiques afin que la population, lorsqu'elle viendra, commencera à visiter les différents sites touristiques. Ça pourrait générer des revenus à la province.
Quelles sont les difficultés auxquelles le secteur touristique est confronté actuellement?
La difficulté provient d'abord de la culture. Voilà pourquoi nous avons commencé au bas de l'échelle en allant dans le tourisme scolaire. Nous expliquons à nos différents élèves l'importance du tourisme. C'est en allant du bas de l'échelle que nous irons graduellement pour faire comprendre aux gens l'importance du tourisme. Mais du moins, nous pensons que au fur et à mesure, lorsqu'on mettra en place les structures qu'il faut, lorsqu'on va aménager bien nos sites touristiques, plus on fait la promotion dans les écoles, en contact avec les parents et même dans les différents frais scolaires, on intègre l'aspect touristique. Et lorsque les enfants iront auprès de leurs parents, non, papa, on est allé visiter tel site, ça va susciter aussi un intérêt auprès des parents. Au fur et à mesure, nous verrons que cette culture-là de tourisme va s'épanouir et va atteindre le plus grand nombre de la population du Kassai-Oriental.
Monsieur Francis Mouya, merci.
Merci beaucoup, madame, pour votre intérêt.
Oui, c'est aussi la fin de notre grande édition du Journal du Matin. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.